sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Jamais le flux de migrants n'a été aussi bas depuis 3 ans. Et pourtant, la question tend de plus en plus les relations entre pays européens. À la veille du Conseil de l'Europe, qui doit se pencher une fois de plus sur cette question, les 28 affichent leur fracture, avec d'un côté les membres de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, l'Italie et son nouveau gouvernement populiste, et de l'autre, la France et l'Allemagne. Pendant ce temps, les drames se succèdent en mer pour les migrants et les bateaux des ONG qui ne peuvent plus accoster en Italie. Du coup, les Européens ont avancé une proposition et pourquoi pas créer des camps aux frontières de l'Union Européenne, en Tunisie par exemple. Hors de question pour Tunis qui dit souffrir déjà de la situation en Libye, Perrine Massy.
Les Tunisiens sont réticents, c'est le moins que l'on puisse dire. D'autant plus que Tunis n'a pas été consulté en amont sur ce projet de camp de migrants sur son sol. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UE, Tahar Chérif. C'est non au plus haut niveau, a-t-il déclaré dans une interview au quotidien belge Le Soir il y a quelques jours. L'an dernier déjà, le chef du gouvernement tunisien lui-même, Youssef Chahed, avait été très clair. Nous n'avons pas les capacités de créer des camps de réfugiés. C'était lors d'une visite officielle en Allemagne, au cours de laquelle la question avait été évoquée avec la chancelière Angela Merkel. Car la Tunisie est un petit pays qui ne compte que 11,4 millions d'habitants et a déjà du mal à gérer les 3 à 4 000 migrants qui se trouvent sur son sol. Pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, ils ont été interceptés par les gardes-côtes tunisiens alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Or, si le projet de l'UE se concrétise, la Tunisie risque de devoir accueillir à terme plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui posera d'énormes problèmes, estime le chercheur Camille Cassarini, qui travaille sur l'immigration subsaharienne en Tunisie. Et puis ici, personne n'a oublié l'expérience de Choucha, un camp ouvert en 2011 dans le sud du pays pour accueillir les réfugiés fuyant la crise libyenne. Des centaines de milliers de personnes avaient transité par ce camp. Cela avait posé d'importants problèmes sécuritaires et coûté très cher aux autorités tunisiennes. Après cette expérience traumatique, personne en Tunisie n'a envie d'ouvrir de nouveaux camps de réfugiés, explique Camille Cassarini. Mais l'Union européenne a les moyens de faire pression sur la Tunisie. Le pays connaît d'importantes difficultés économiques. L'UE et son premier partenaire. Dans ces conditions, Tunis ne pourra peut-être pas refuser longtemps les propositions européennes.
Quant au nouveau ministre italien de l'Intérieur, le très droitier Matteo Salvini, il ne fait que jeter de l'huile sur le feu avec l'interdiction lancée aux bateaux des ONG d'accoster dans les ports italiens. Il y a 3 semaines, il promettait d'ailleurs la fin du bon temps pour les clandestins en Italie. Une déclaration qui a claqué comme une provocation à San Ferdinando, un camp de Calabre où s'entassent des migrants qui récoltent des agrumes. Le 2 juin dernier, Sacco, un jeune malien de 29 ans, a été tué par balle. Aujourd'hui, ses compagnons d'infortune réclament justice et des conditions décentes de travail. Frédéric Lebel s'est rendu sur place.
Pas de slogan, juste une banderole sur laquelle on peut lire « Justice pour Sacco ». En ce début d'après-midi, une petite dizaine de travailleurs migrants sont venus réclamer justice devant le conseil régional de Reggio de Calabre. Leur collègue Sacco Soumela, un jeune malien de 29 ans, a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il récupérait quelques tôles pour consolider un abri de fortune.
Ça a choqué tout le monde, ça a choqué aussi bien les Africains que les Italiens. Moi, je le connaissais, mais il était un gars sérieux. Il a laissé sa femme et un enfant au Mali. Il gagnait sa vie, il travaillait pour sa famille, mais ils l'ont tué. Donc c'est dur pour sa famille, mais aussi c'est dur pour nous, parce que ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Donc ça, c'est dur, quoi, c'est dur.
Radim vit dans la plaine de Gioia Tauro, à une demi-heure au nord de la capitale régionale, à Rosarno plus précisément. Une ville bien connue pour les émeutes qui ont opposé il y a 8 ans les locaux et les migrants. La tension était extrême déjà, mais pour Radim, rien n'a vraiment changé.
Il y a 2 ans comme ça, il y avait une tension entre les Africains qui vivent ici, dans la zone de Rosarno, et les Italiens qui sont là. Donc, dès l'aube, des jeunes Italiens avec leur voiture, ils arrêtaient nos amis africains avec leur vélo, ils les bastonnaient, ils les faisaient du mal, donc ça avait créé beaucoup de tensions il y a 2 ans comme cela, quoi. Maintenant, depuis lors, les choses se sont calmes, mais de temps en temps, tu vois des choses vilaines. Il y a une semaine comme ça, au Tente, j'ai entendu qu'un Italien est venu prendre 3 Africains pour les amener travailler dans les champs. Maintenant, arrivé au champ, il a sorti un bâton pour les bastonner, quoi. Il a blessé l'un et les 2 autres ont couru, quoi, pour se sauver. Donc, il y a des choses qui se passent dans la zone de Calabria et ça fait mal. Aussi bien nous, Africains, mais aussi certains Italiens. Quoi.
Rosarno, c'est aussi la région où Matteo Salvini a été élu sénateur avant de devenir le ministre de l'Intérieur de l'actuel gouvernement populiste. En ce mois de juin, le leader d'extrême droite s'est illustré par des propos toujours plus provocants sur les migrants. Il a aussi fermé les ports aux bateaux des migrants. Pour Celeste Loggiaco, déléguée du syndicat CGIL, le climat se détériore.
Bien sûr, l'attitude de Salvini, la fermeture des ports, tout ça montre une hostilité complète envers les travailleurs migrants. Nous, on est convaincus qu'il faut un autre accueil de ces gens qui fuient la faim, la guerre ou des conditions économiques indignes. Il faut redire que l'Italie ne peut pas être laissée seule par l'Europe. Mais en même temps, il faut dire que le fait d'accueillir dignement ces travailleurs, ça permet de les soustraire des mains de ceux qui les exploitent, qu'on appelle les caporaux.
Le caporalata, comme on l'appelle dans l'extrême sud de l'Italie, c'est un système bien rodé. Le caporal, souvent un ancien migrant, joue les intermédiaires pour les patrons locaux. Le travail n'est pas déclaré. En Calabre, on veut croire que si le système perdure, c'est aussi à cause de la mafia, Celeste Loggiaco.
C'est un système qui n'est pas né d'hier. Le système des caporaux existe parce que malheureusement, le jeu de l'offre et de la demande d'embauche se fait de façon informelle par téléphone portable, alors qu'il faudrait développer l'embauche de manière transparente. Dans la loi qui a été votée, il est prévu ce qu'on appelle des listes de travailleurs en recherche d'emploi pour que des entreprises déclarées aillent chercher leur main-d'œuvre sur ces listes. Les infiltrations de la mafia, ce n'est pas dans toutes les entreprises, mais évidemment, la crise a accentué encore les problèmes liés au système des caporaux.
Sous la pression de plusieurs syndicats, des ONG et des travailleurs eux-mêmes, on compte désormais un peu plus de travailleurs déclarés, 30% selon les ONG. Radim en fait partie, il est aujourd'hui syndiqué mais il n'a rien oublié.
Alors au début on travaille dans des conditions difficiles parce que les paiements n'étaient pas bien respectés. Ils ne faisaient pas des contrats, ils te faisaient le travail noir. Au début, sans déclaration, on gagnait 25 euros par jour, voire 20 euros par jour. Si tu racontes les mandarins ou les oranges, par cassette, on te paye 1 euro par cassette de mandarin et 50 centimes par cassette d'orange dans la journée. Alors, les conditions ne sont pas faciles, quoi. Tu travailles durant l'hiver, tu te lèves à 6 heures du matin, préparer, et ensuite monter dans ton vélo pour aller dans les champs. Tu peux faire 5 km avant d'arriver dans les champs, sous le froid avec, et aussi sous la pluie. Donc ce sont des conditions très dures. Donc il faut être très très courageux pour faire ces travaux, quoi.
C'est un mauvais choix ?
Non, selon moi c'est pas un mauvais choix parce que au moins j'arrive à gagner quelque chose dans ce travail qu'on fait ici, dans les champs. Donc je ne regrette pas, quoi, je ne regrette pas.
Dans le camp de San Ferdinando, c'est plutôt la colère qui domine. La récolte des agrumes ne commencera qu'en septembre. Ali a 21 ans, il vient de Gambie. Il affiche un grand sourire, mais les traits sont durs et le désespoir pointe. Il ne rêve que d'une chose, fuir cet enfer dès qu'il aura récupéré ses papiers.
C'est pas un bon travail ici. On est fatigué d'aller en ville pour chercher du travail. On s'assoit, on attend et ils viennent vous chercher. Mais ils ne paient pas bien. On travaille de 7h du matin à 7h du soir. Tout ça pour 25 euros. Alors qu'on a travaillé dur. C'est dingue. Je peux vous dire ici, on souffre. On ne vit pas dans de bonnes conditions.
Dans le camp de San Ferdinando, Ali a aussi tiré le mauvais ticket. Il n'a pas eu de place dans le deuxième camp, installé en août dernier par les autorités. Des nouvelles tentes avec le sigle ministère de l'Intérieur, des douches et de l'électricité, mais un contrôle sévère à l'entrée avec des badges. Ali est venu en vélo, recharger son portable dans le nouveau camp, mais il vit dans le bidonville d'à côté où s'entassent plusieurs centaines de migrants.
Ici, c'est trop dur, trop triste, rien de bien. Il n'y a pas de douche, on ne peut même pas recharger son portable. Je suis obligé de venir ici pour le brancher. C'est trop dur là-bas. Venez voir là-bas, les conditions de vie. Il faut entrer pour voir.
Le chemin qui mène à sa cabane est jonché d'ordures. En marchant, on croise un générateur. Dans ce décor de fin du monde, son voisin diffuse de la musique et nous salue dans une tenue de sapeur. Et c'est devant un assemblage de tôles, de cartons et de toiles fermés par un cadenas qu'Ali s'arrête, c'est là qu'il dort. Les damnés de la Terre, c'est le titre du rapport qu'a rédigé l'ONG Medou, Médecins pour les droits humains, qui gère un dispensaire pendant la saison de la récolte.
Moi je m'appelle Mamadou Dia, je suis sénégalais et je vis en Italie depuis 8 ans.
Mamadou Dia joue les médiateurs dans le camp pour l'ONG. Plutôt qu'un camp, il préfère parler de ghetto.
Bon, les conditions de vie sont très difficiles parce que quand ils voient comment ils vivent dans les baraques, parce que les baraques, il s'agit du bois qu'ils prennent en campagne, aussi des cartons, des toiles. Il y a une personne qui a mis des douches, il l'a fabriqué, type un peu précaire. Et aussi, il a un fourneau où il réchauffe l'eau pour le vendre à 50 centimes. Donc les gens ont tendance à aller acheter cette eau à 50 centimes le seau pour se laver. Il y avait des toilettes, mais vu qu'il n'y a pas les standards pour les gens qui s'y habitent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, au fur et à mesure, les toilettes vont détériorer, quoi, vraiment. Et la cuisine, il y a ceux qui ont des petits fourneaux et ceux qui font feu et ceux qui ont une bouteille de gaz, par exemple. Ça dépend des moyens.
Et faire un feu ici, c'est pas dangereux?
Si, c'est tellement dangereux que dans le passé aussi, il y avait des incendies qui sont partis de ces feux-là. Donc c'est une situation très difficile et très dangereuse.
Aujourd'hui, Mamadou Dia conseille aussi les migrants sur les questions légales et de demande d'asile. Mais son constat est amer. Selon lui, maintenir ce camp indigne est aussi un moyen de garder une main-d'œuvre servile.
Moi, je ne peux pas concevoir que les gens ne veulent pas louer les maisons aux travailleurs africains. Donc, si quelqu'un vient me dire que non, ça n'existe pas, le racisme, c'est faux. Il y a 35 000 maisons qui sont vides. Donc, sincèrement, selon moi, pour changer ces conditions-là, c'est important aussi l'habitation des travailleurs. Vraiment, ça me résulte que vraiment ces conditions de vie-là, c'est seulement pour garantir main-d'œuvre. Parce que toujours tu l'entends certaines personnes qui défendent cette exploitation, disant que non, les prix, les marchés ne nous permettent pas de faire les choses en règle. Moi, je l'ai entendu aussi de la bouche d'une autorité. Une personne qui devait garantir la légalité.
La légalité, une notion à défendre avec rage dans une région dont l'économie est aux mains de la puissante mafia Ndrangheta.
Les migrants en Espagne connaissent les mêmes conditions de travail dans les exploitations agricoles d'Andalousie. Les salaires sont misérables, les hommes et les femmes venus souvent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne sont logés dans des conditions indécentes. Mais plusieurs syndicats et associations tentent de faire bouger les choses. Laetitia Dive nous appelle de Séville.
On les appelle les chabolas. Ces bidonvilles, faits de tôle, de chaux ou de plastique, ont prospéré un peu partout ces dernières années dans le sud de l'Espagne. L'électricité n'y arrive que par voie détournée, tout comme l'eau courante. Aujourd'hui, ils hébergent beaucoup de migrants qui gagnent péniblement leur vie dans les champs. À Almeria, le syndicat andalou des travailleurs estime ainsi que 100 000 personnes vivraient dans les bidonvilles de la province et travailleraient dans les serres de plastique qui abritent des cultures de tomates ou d'aubergines. Leur salaire oscillerait entre 32 et 38 euros par jour, quand la province prévoit pourtant un minimum de 42 euros pour 8 heures travaillées. C'est donc pour dénoncer ces conditions précaires que le syndicat a été à l'initiative de plusieurs grèves d'ouvriers agricoles cette année. En parallèle, ses membres tentent de faire connaître leurs droits aux travailleurs, qu'ils soient légaux ou illégaux. L'organisation milite enfin pour que les logements vacants du coin soient attribués aux personnes qui vivent dans ces bidonvilles. Dans cette région très agricole, leurs mouvements de protestation ont été particulièrement suivis cette année. Au syndicat, on se réjouit de cette mobilisation et on estime que les habitants ne supportaient plus l'exploitation et qu'ils ont souhaité faire avancer les choses chez eux. Même chose à l'autre extrémité de l'Andalousie, où la société civile se mobilise cette fois pour défendre les migrants qui travaillent dans les champs de fraises. En février dernier, un collectif d'associations de Huelva estimait dans un rapport qu'au moins 2000 migrants vivraient dans des bidonvilles du coin. Toutes militent donc pour que les services publics puissent leur fournir un logement et des conditions de travail décentes. La région a en effet particulièrement besoin de cette main-d'œuvre au moment des récoltes.
Europa.
C'est le troisième et avant-dernier volet de nos reportages avec les lycéens pour les confronter aux clichés eurosceptiques. Cette semaine, Emma Roulin et Ève Minot sont retournés à Évreux pour donner la parole à une classe de première littéraire. Et justement, ces lycéens donnent leur avis sur la xénophobie et le cliché de l'identité européenne menacée par les migrations.
Les migrations menacent l'identité européenne. Donc, cette critique, je l'ai mise entre guillemets. Voilà, donc c'est des paroles qu'on entend souvent dans la bouche de politiques d'extrême droite.
Pour se pencher sur ce cliché, la classe découvre l'histoire de Gözde, 29 ans, une jeune autrichienne musulmane qui combat à sa manière, c'est-à-dire en dansant, l'islamophobie dont elle est victime au quotidien.
C'est assez surprenant de se dire que cette femme qui est née à Vienne et qui est viennoise, qu'elle reçoit des paroles... pour dire qu'elle n'est pas autrichienne puisqu'elle a eu des origines turques. Elle est musulmane et vu qu'en Europe, la majorité globale était chrétienne, et, les gens ont du mal à accepter l'islam.
Moi, je me dis que ça aurait pu être la France puisque l'extrême droite a failli monter au pouvoir, mais que c'est vraiment de la xénophobie en fait cachée sous des prétextes de religion pour justifier une haine en fait. Voilà.
Moi je pense que l'islamophobie c'est aussi dû à un manque d'éducation parce qu'on n'est pas très informé sur la religion. Et je pense que avec les événements actuels, le terrorisme, les gens ont peur alors qu'ils ne connaissent même pas la religion islamique. Et qu'on devrait être plus informé sur les valeurs de l'islam et c'est tout.
Comment c'est possible qu'il y ait cette montée des nationalismes, des extrêmes droites, alors que justement, on est plutôt dans une construction européenne multiculturelle, ouverte vers l'autre?
Moi, j'ai toujours remarqué que l'extrême droite, elle monte en période de crise ou alors de problèmes économiques graves ou alors comme là, avec les attaques terroristes. Donc ça vient vraiment d'une peur, en fait, et d'un mal-être dans la société, je pense.
Dans son portrait, la jeune femme décline son identité. Rejetée chez elle en Autriche, étrangère en Turquie, elle se revendique avant tout viennoise. Mais d'ailleurs, de quelle identité parle-t-on lorsqu'on évoque l'identité européenne ?
Moi, je pense que ça n'existe pas vraiment puisque l'Union européenne proclame la diversité et d'autres valeurs qui forment plutôt une identité peut-être globale et pas spécialement européenne.
L'identité d'un pays, ça peut juste être son patrimoine culturel, social, économique, sans être forcément une identité commune à plusieurs pays, mais juste particulière à un seul.
Gözde ne se sent d'ailleurs pas du tout soutenu par l'Europe. Et eux, que feraient-ils s'ils avaient le pouvoir d'agir ? Que peut faire l'Europe ? Que doit faire l'Europe pour lutter contre les discours xénophobes ?
Moi, je trouve que ça sert à rien de sanctionner puisque ça ne fait que monter le sentiment de haine, en fait. C'est mieux d'éduquer, en fait, d'essayer d'éduquer peut-être dans les écoles un peu plus sur les religions.
On ne pourra jamais empêcher quiconque d'avoir un avis plus ou moins positif ou négatif sur un problème qui nous concerne tous, mais à part informer pour que les gens aient leur propre avis sans suivre une masse, je pense que c'est la meilleure chose.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Dans la classe, beaucoup sont eux-mêmes issus de familles qui un jour ont décidé de venir vivre en France. Quand on leur demande de définir leur propre identité, peu citent spontanément l'Europe. Même si tous avouent ne pas pouvoir imaginer un jour de la voir disparaître.
Les clichés eurosceptiques, un webdoc donc à retrouver sur europeetmoi2.rfi.fr. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur rfi.fr et bien sûr sur notre page Facebook.